Grosse fin de semaine de sport, Ray.
Pas mal. Il y a eu de l'action. Absolument. Beaucoup de hockey. On va commencer avec le Canadien qui jouait deux matchs en fin de semaine après une semaine de congé complète. Le Canadien a été six jours sans jouer. Puis, en fin de semaine, ça a été deux défaites pour le Canadien. Samedi, 5-3 contre les Leafs de Toronto au Centre Bell. Et hier, une défaite de 3-2 contre une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey, les Sénateurs d'Ottawa, à Ottawa. Et si vous avez regardé le match, vous êtes à même de constater que les Sénateurs ont eu le dessus sur le Canadien. Et ça finit 3-2 Ottawa, mais les Sénateurs ont eu le dessus sur le Canadien dans l'ensemble du match, là, pour le temps de possession, pour l'allure de la rencontre. Les Sénateurs ont été meilleurs que le Canadien hier soir. Jake Allen a fait que le match s'est rendu en prolongation. Il a même fait quelques bons arrêts en prolongation sur deux échappées, entre autres.
Oui. Il est très bon, Jake Allen, je vais dire, en affaire.
Fait le travail comme deuxième gardien de but. Et c'est Brady Tkachuk qui a fait la différence avec son sixième but de l'année en surtemps pour donner une cinquième victoire seulement aux Sénateurs en 20 matchs. Deux de ses cinq victoires aux dépens du Canadien. Nick Suzuki avec son quatrième et Corey Perry avec son deuxième ont été les marqueurs pour le Canadien. Corey Perry prenait la place de Arturi Lekkonen qui a été rayé de la formation alors qu'il est en parfaite santé pour le tricolore. Batterson et Norris avaient marqué pour les Sénateurs. Des drôles de buts, hein? Des rondelles qui ont dévié pour passer par-dessus la tête du gardien Allen et
Le coup du lob.
Pénétrer dans le filet pour permettre aux Sénateurs donc de l'emporter. Les Sénateurs étaient privés du beauceron Thomas Chabot, qui est blessé au haut du corps et a donc raté un deuxième match consécutif. Après la partie, Claude Julien n'était pas très content. Évidemment, son club n'a pas joué un très, très bon match. Surtout après une semaine de repos, le Canadien a connu une fin de semaine difficile alors qu'ils avaient eu le temps de se préparer. Hier, Claude Julien a dit « on était tout croche ». Nick Suzuki, lui, a dit « on joue pour ne pas perdre ». Le Canadien joue différemment du début de la saison quand il avait gagné 7 de leurs 10 premiers matchs. Le voyage dans l'Ouest, ça avait bien été. Le Canadien joue moins bien présentement.
Comment ça se fait, ça? C'est dur à dire, Paul, de trouver une raison, mais oui. C'est la même équipe, c'est le même coach. Moi, j'avais posé une question sur Twitter l'autre fois, puis on aurait dit que... Il n'y a personne qui voulait vraiment se mouiller, là, surtout que sur Twitter, c'est beaucoup...
Twitter...
C'est beaucoup soit du monde qui sont enragés ou des journalistes sportifs que là, eux autres,
le
Canadien, là. Mais c'est quoi le rôle du coach là-dedans et de l'équipe d'entraîneurs? C'est la même équipe? C'est les mêmes gars?
C'est la même équipe. La même équipe.
Qui était super bon, là, sont plus bons. Ça, c'est bizarre, pareil.
Ils jouent moins bien. Suzuki, quand il dit on joue pour ne pas perdre, c'est que le Canadien joue moins agressif, je pense, avec la rondelle. On prend moins de chances. Et ça, c'est un style de jeu qui est associé à Claude Julien. Je veux pas le viser inutilement, Claude Julien, mais hier, j'ai écouté un petit peu les après-matchs et la chaleur va commencer à monter dans la cuisine de Claude Julien cette semaine si le Canadien se replace pas. Ça change vite pareil, hein, après le début de saison qu'ils ont eu, parce que tout le monde était encouragé avec les nouvelles acquisitions du Canadien. Mais il reste que, tu sais, mettons, tu regardes versus Toronto sur papier, le Canadien n'a pas le même genre de joueur que les Leafs, là. Mettons, les 10 meilleurs joueurs quand Toronto joue contre Montréal, tu vas probablement en avoir 6-7 de Toronto dans les 10 meilleurs sur papier.
Le tir d'Austin Matthews en avantage numérique samedi sur réception, là.
Oui.
Bim!
Matthews, il roule pas pire, là. Marner.
As-tu vu la garnotte? C'était 88 000 à l'heure sur réception.
Le Canadien n'a pas ce genre de joueur.
Je pense que quand la rondelle était rendue à peu près à hauteur de la barre transversale, il rentrait pas une feuille 8,5 par 11 entre les deux. Tellement c'était... C'est ce tir incroyable.
Le Canadien est meilleur que ce qu'ils ont fait hier contre Ottawa, mais ils sont pas aussi bons que le début de la saison.
Non.
Je pense
qu'ils
sont entre ça. Là.
Ouais.
Mais c'est un club... à mon avis, c'est un club qui a pas de premier trio vraiment. Là, pas de joueurs d'impact pour rivaliser avec des clubs comme Toronto. Donc... Il y a encore de l'espace pour le Canadien.
Ils disent trio, quand t'as deux bons trios, du tout le temps trio 1A, 1B. Mm. Puis là, Montréal, depuis le début de la saison, puis en passant, moi, je suis un partisan, là, fait que, tu sais, je pile sur mon orgueil de dire ça, mais tu sais, ils disaient trio 1A, 1B, 1C, là, parce que c'est pas mal, tu sais, des deuxièmes, là. Il n'y en a pas un premier trio.
OK, trio.
Là, tu sais, Toffoli, Anderson, ils ont des belles statistiques, c'est super bien.
Ouais.
Les statistiques sont un peu gonflées aussi, là. Ils feront pas ça toute la saison, c'est impossible, là.
Toffoli est un bon marqueur de buts. Il va continuer à marquer des buts.
Oui, mais pas... Mais tu sais, là, je pense que son...
je pense.
Sont, parce que tu comprendras, j'ai poussé le bouchon, là. Voyons, le pourcentage de tirs convertis en but, là.
Oui.
Il était à quelque chose comme 20%.
Ça restera pas là.
Ça restera pas à 20%.
Mais ça va rester probablement le meilleur marqueur du Canadien.
Ouais. Ça se
c'est
pourrait.
Une bonne acquisition.
Rapport lui ou Anderson,
prix, là? Pas Anderson.
Anderson gagne plus d'argent, par exemple.
C'est pas un marqueur de but, Anderson.
Ben, il a déjà mis 27, non? Sa meilleure saison, il avait mis 27.
Un l'an dernier.
Ouais, mais un en 26 matchs, retour de blessure, tu sais, il a déjà quoi, 9-10?
Mais Toffoli était plus un marqueur de but naturel.
Toffoli, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il soit capable d'avoir autant de succès en ayant aussi peu de patins. On a parlé quand on...
Ah, il patine pas vite, hein?
C'est un bon marqueur.
C'est ça, exactement, mais c'est impressionnant. Là,
il y a des feintes aussi, des fois, ouais. Le zoo, il passe à garde-motte. Ben, as-tu vu le but de Corey Perry hier?
Oui, belle feinte.
Perry, puis ça patine pas vite, ça, là. Zoup entre les canistes, toi,
mais il n'y a pas de joueur à Montbourg non plus, là.
Non, non,
de
non, non.
Il y a défenseur qui limite de jouer dans
mais
la ligue.
Je me disais, c'était
le numéro
lui,
de Montbourg, toi.
C'était lui ou Lekkonen, tu sais. D'après moi, Lekkonen n'aurait pas fait ça. Lekkonen, au mieux, il aurait pris un slap shot sur la cheville du défenseur. Ça aurait dévié en arrière quelque part.
Mais Lekkonen, il est plus rapide. Mais je suis d'accord avec toi qu'il produit pas beaucoup.
Et pareil.
Lekkonen, tu le mets sur la plage, sur le bord du lac, puis ça peut qu'il manque le lac.
Oui, oh, mais il est bon dans les deux sens, M. Ray.
Il est bon sur 200 pieds, oui.
C'est exactement. Ça, sur 200 pieds, c'est ça.
Je pense qu'il est bon dans le vestiaire aussi.
Oui. Joue à Ottawa demain, à Winnipeg jeudi et à Winnipeg samedi. C'est donc une semaine assez chargée pour le Canadien, mais ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison pour le tricolore. À part de ça, la Ligue nationale de hockey était au Lake Tahoe en fin de semaine. Hier, Boston a gagné 7-3. Samedi, l'Avalanche a gagné 3-2 contre Vegas. Un match qui a été interrompu par le soleil. Les flaques d'eau sur la patinoire.
Oups, il y a une flaque.
Donc, ça a été un match qui a été joué en deux temps. Une première période en après-midi samedi et les périodes 2 et 3 en fin de soirée à Lake Tahoe, mais au début de la nuit ici. Mais le chandail de l'Avalanche était magnifique quand même. Là, aux couleurs des Nordiques, c'était très, très beau.
J'ai trouvé du monde sur Internet qui était fâché de ça. Moi.
Pour le...
Ça m'a sauté. Ben encore chandail. Là, je fais tout le temps attention quand je parle des Nordiques parce que moi, c'est pas de ma génération.
Non, c'est ça.
Tu sais, je veux dire, j'étais né quand les Nordiques sont partis, mais j'étais pas vieux. Je viens de Lévis.
Tu sais,
je restais pas à côté du Colisée non plus, puis j'ai pas joué au hockey. Ouais. Ça fait que, tu sais, je le sais que c'est sensible. Moi, quand j'ai vu les gars avec les chandails des Nordiques, là, j'étais un peu ému.
C'est
très
ça,
beau. Les images étaient fantastiques.
Il est vraiment beau.
Le gilet, il est spectaculairement beau. Puis. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une équipe à Québec. Je suis parti de ceux qui trippent. Je suis un partisan des Canadiens, mais quand les Nordiques arrivent, les Canadiens, ils mangent la merde, là, puis c'est les Nordiques. Moi, je suis un partisan patriote. Je suis un consommateur de hockey patriote. Ça fait que, tu sais, je prends pour mon équipe locale, dans le fond, c'est ça l'affaire. Même si elle n'est pas bonne, pas grave, c'est nous autres, bon. Mais j'ai trouvé du monde qui était comme, c'est pas un hommage, puis c'est pas
l'émotion.
Une bonne couleur, puis ramener notre équipe, on va être contents, sinon...
C'est notre logo.
C'est correct, regarde. C'est du sport aussi. Les gens, on a le droit d'être d'accord, pas d'accord.
Vous autres, mettons, vous dites non, hey, laissez faire, il était beau, c'était le fun. Puis,
ils vont faire de l'argent dessus, de toute façon. Notre opinion.
Les Whalers aussi, les Hurricanes de la Caroline ont joué aux couleurs des Whalers d'Hartford.
Beau chandail aussi.
Oui, très beau. Avec le Brass Bonanza et tout le kit. C'est très, très bien.
Il y a les Golden Knights, il y avait un chandail avec un genre de.
Oui, ça, c'est l'ancienne équipe de la Ligue internationale de hockey. Le Thunder de la Ligue.
Ah, le Thunder?
Oui. Pour qui a joué, je crois, Patrice Lefebvre, un des meilleurs joueurs.
Ben, Noréum aussi.
Oui.
Mais c'est vrai que Patrice Lefebvre a joué là.
Oui.
Ça te dit rien, Paul, hein?
Moi, je connais Patrice.
C'était dans la Ligue internationale. C'était dans la Ligue internationale, ça.
Ouais, je connais moins celle-là. Moi,
Patrice Lefebvre, c'est quoi? C'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, hein?
Meilleur pointeur, ouais.
Bon, vous m'apprenez ce matin l'existence de la Ligue internationale de hockey.
Les Rafales? T'as pas connu les Rafales? International.
La Ligue internationale.
Ouais, hockey, des Rafales. Jason Ruff, Steve Larouche, Gaétan Duchesne, Francis Bouillon, Corrado, regarde, Patrick Labrec, les frères Roberge.
J'ai fait l'erreur de dire, je connais pas telle affaire. Roberge, Lavoie, Gaétan, ça va.
C'était bizarre, les Rafales, parce que c'était comme tout de suite après les Nordiques, mais. Puis, il donnait 14 000 sur 15 000 billets, mais il y avait du monde en tabarouette.
Les Citadelles, ça, c'était la Ligue
américaine.
Ligue américaine.
Ça, c'était l'organisation du Canadien qui s'est installée à Québec.
Ah, ouais.
Mike Ribeiro aussi.
OK. Parce que c'est la seule game que je suis allé voir.
Les Citadelles?
Ouais. Eh bien, étant jeune au Colisée, là, c'était les Citadelles.
C'est plate comme souvenir un peu quand même.
Ben, j'ai le souvenir clair de la game. On était partis avant la fin. parce que ça finissait plus.
Les gens partaient avant fin beaucoup à Québec, c'était beaucoup comme ça. Là.
Mais
même les partisans des Nordiques. Ouais. Là,
non, mais ils
interrompaient au milieu de la troisième période.
Non, mais ils étaient rendus tard. Là. Tu sais, j'étais pas vieux. Je sais pas, j'avais quelle heure.
Pourquoi
non, il interrompait le match souvent parce qu'il fallait qu'il repasse à Zamboni ses flaques de sang.
Ah.
Fallait qu'il nettoie la glace.
Ça se tapait, ça.
Il y avait des flaques de sang partout. Là, mon oncle Bruno, il avait dit à mon père, le frère de mon père, il avait dit, on va aller au hockey, ça va être le fun, c'est mon parrain. On va aller au hockey, ça va être trippant, tu sais, avec mon neveu, tu sais, yes sir. Ça s'était fessé sa gueule pendant deux périodes et demie. Mais là, il fait, bon, ben, on...
On va y aller.
On va faire un bout, là.
La boxe est finie, on va y aller.
Ouais, c'est ça. J'en garde un souvenir indélébile.
David Pastrnak a marqué 3 buts hier dans la victoire des Bruins contre les Flyers au Lake Tahoe. Dans les autres matchs, Winnipeg a battu Vancouver 4-3 en prolongation. Pierre-Luc Dubois a donné la victoire aux Jets. Et Washington l'a emporté 4-3 contre New Jersey. Alexander Ovechkin, dans ce match, a marqué le but gagnant. Au cours de la fin de semaine, Sidney Crosby a aussi joué son 1000e match dans la Ligue nationale de hockey. C'était samedi. Et les joueurs des Pingouins ont été très originaux et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait pour souligner le 1000e match de Sid the Kid. Bon, d'abord, on lui a remis un tableau, puis le bâton d'argent avant le match. La blonde de Sidney était là. C'était le seul membre de sa famille qui était là. C'était la blonde de Sidney sur la patinoire. Le
tableau, d'ailleurs, on aurait dit qu'ils ont acheté genre au Village des Valeurs. Tu l'as, ce tableau-là.
Hey, disons qu'au nombre de choses que Sidney a, c'est pas sûr que ça va être en avant, ce tableau-là.
Mais c'est tout un exploit, là, mais... Tu sais, 1000 matchs en Ligue nationale. Mais esprit, c'était le tableau. Oui.
Mais ce que j'ai aimé, c'est deux choses. D'abord, les joueurs des Pingouins ont fait la période de réchauffement avec un chandail 87, Sidney Crosby. Tous les joueurs portaient le 87. Et à un moment donné, au début de la période de réchauffement, ils ont imité Sidney Crosby, qui fait toujours ça. Il relâche ses patins, la jambe gauche, puis ensuite la jambe droite. Tous les joueurs ont pris la pose de Sidney Crosby. Ça, c'était vraiment drôle, bon. Là. Ouais, puis ouais, Sidney, il a trouvé ça drôle.
Ouais.
Tu le regardais, il dit, ah, ben, gang de joie le vert.
Mais tous les gars sur la glace en même temps.
Il lâche
le genou droit à terre, c'est le genou gauche élevé.
Il a trouvé ça très bon. Ouais, c'est des petits flashs comme ça que c'est très bien. Ça a été très bien fait. Maintenant, en fin de semaine, j'ai vu passer plusieurs analyses parce que 1000 matchs, c'est un plateau important, tu l'as dit. 350 joueurs qui ont atteint les 1000 matchs. C'est comme une réalisation. Puis on sait qu'il en reste moins à faire qu'il en a de fait à Sidney Crosby. Puis on a commencé à essayer de trouver la place de Sidney Crosby dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Je trouve que c'est une discussion intéressante à avoir. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il fait partie des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey.
C'est pour ça qu'ils se sont dit, on va décrocher un carré de tapisserie sale d'une cuisine des années 50. On va l'encadrer.
On va mettre ça dans un cadre.
On va l'encadrer.
Mais moi,
on va lui donner ça qu'un bâton en argent.
Je suis totalement d'accord avec toi, Ray. Puis oui, les points, puis la domination, tout ça, mais les championnats. T'ajoutes les championnats à ça. Là.
3 Coupes Stanley. Ouais. Le but en or.
Ouais.
C'est un leader incroyable.
Ça a pas
Sidney d'allure. Crosby, c'est un leader. Ça, c'est un leader, là, ça paraît pas tout le temps. Dans les chiffres, ça paraît pas en tant que tel. C'est de l'humain, c'est les coéquipiers avec lui, puis les succès que les équipes ont également. C'est un exemple, c'est un modèle pour les jeunes aussi, Sidney Crosby, pour plusieurs raisons. Sidney Crosby fait partie de l'élite de l'histoire de la Ligue. Puis dans cette liste-là, je te laisse aller après ça, Paul, il y a Gretzky, il y a Lemieux, il y a Bobby Orr. Moi, je pense que ces trois-là, peu importe qui vous êtes, vous devez les placer dans votre top 5. Ça, c'est mon avis à moi. Crosby, lentement mais sûrement, il devient un incontournable. Puis le cinquième, ben on peut débattre. Là, pour les plus vieux, Gordie Howe en fait partie. Le fait que Gordie Howe a joué jusqu'à 52 ans, il a joué... 30 ans dans le hockey professionnel, c'est remarquable. Plus que ça, là, 32 ans.
Tout ça, c'est
remarquable. Est-ce qu'il fait partie des 5 meilleurs? C'est vraiment discutable, à mon avis. Guy Lafleur, Maurice Richard, peut-être Marc Messier pour certains.
Jaromir Jagr.
Mais comme Jaromir Jagr.
On est sur
une
ligne.
Comme s'il y a un top 4, d'après moi, puis 5e, choisissez-le, ça me dérange pas.
Là. Ouais.
Merci. Ben, je vais prendre Joe Sakic d'abord.
Tu ne souviens pas ce que tu voulais dire? Tu peux prendre Joe Sakic.
Moi, je vais prendre Joe Sakic.
Je me souviens pas. Mais,
Ben, on met-tu des goalers là-dedans?
Ah non, je me souviens ce que je voulais dire.
Ouais, c'est dur. Hein?
Ben, gardien, ouais.
Top 5, je suis pas sûr.
Gardien, il faudrait faire un top 5 de goalers.
Ouais, c'est sûr.
C'est plus tough. Mais tu vois, il y a tout le temps la question, c'est qui le meilleur joueur dans la Ligue cette année? Il y a plein de paramètres.
Cette année, on peut avoir une discussion intéressante.
Non, mais c'est qui le plus dangereux? C'est qui
cette année, ça va être plus de points et autres.
Mais moi, mon point, c'est rien. souvent, on s'est dit, là, est-ce que McDavid a dépassé Crosby? Là? On est-tu rendu pas mal à cette étape-là?
Mais pour moi,
j'ai l'impression qu'il ne dépassera jamais.
Ben, il va falloir qu'il gagne.
Tu comprends?
Si McDavid amène son équipe à gagner des championnats, je vais l'inclure dans la discussion, ça ne me dérangera même pas. Moi, la victoire, c'est très important.
Ben
si
oui.
Vous m'écoutez depuis quelques années, vous le savez, gagner, ça doit être le critère le plus important. On est dans le sport professionnel, on est dans une business de résultats.
Ouais.
C'est victoire, défaite. Là, on donne des points de quêteux pour les équipes qui perdent en prolongation. Ça m'agace, mais c'est victoire, défaite. On n'est pas dans le participatif, là. On est dans une ligue professionnelle de hockey. La victoire doit être le premier critère pour départager un joueur pour sa place, son importance. C'est la victoire. C'est pas pour faire des beaux vidéos puis faire des belles entrevues que tu joues dans la Ligue nationale de hockey.
McDavid, c'est, à mon avis, le joueur le plus spectaculaire de la Ligue nationale.
Visuellement, c'est indéniable.
Depuis 2-3 ans,
indéniable,
il n'y a personne qui arrive à la cheville. Mais traverser la patinoire à 45 km/h, déjouer 5 gars, puis scorer, c'est...
Tu passes aux nouvelles.
Entre guillemets, là, c'est juste spectaculaire. Ça fait pas de toi le meilleur.
Ça fait des beaux vidéos.
Ça fait que t'es capable de déjouer plein de gars, t'es super hot, mais si t'es pas capable d'utiliser ce talent-là pour gagner,
même chose pour Carey Price. Même chose pour Carey Price. Il fait des beaux vidéos. C'est le joueur, techniquement, c'est un gardien de but parfait. Mais les résultats, ils sont pas là avec le Canadien. Donc, tu peux même pas mettre dans la même phrase que Patrick Roy. L'ordinateur arrête de fonctionner. T'essayes ça.
Moi, hier, là...
C'est clair, c'est pas dans la même phrase.
Moi, hier, là, tu sais, c'était-tu en 2010, Price Wallach?
Ouais.
2010? Moi, là, hier, j'ai le goût de repartir Price ou Allen. Là.
Ouais. Mais Claude Julien, il doit certainement se poser la question.
Hey, Allen, hier, là,
ouais.
Il a gaulé en tabarouette.
Demain soir, le Canadien, il faut qu'il gagne là, à Ottawa.
Ouais.
Là. On s'entend que ça va pas bien. Là.
Non.
Ça prend une victoire, peu importe comment, le 8-7 ou 2-1, pas grave.
On s'en fout.
Il faut gagner demain.
Oui.
Moi, selon le critère que tu as énoncé, Ray, la victoire et tout ça, là, je maintiens mon sidekick un peu avec un clin d'œil, mais je pense que c'est Mark Messier.
Il a gagné
Messier.
La coupe.
Oui, il a gagné, puis deux fois plutôt qu'une, mais je vais rentrer Mark Messier.
Dans l'ombre de Wayne Gretzky beaucoup.
Ouais. En 94, là, il est débarqué à New York puis il a dit je m'en viens ici pour gagner. En 93, parce que c'est 93-94, il a dit je m'en viens ici pour gagner, on va gagner la Coupe Stanley, puis ils ont gagné la Coupe Stanley.
Avant ça, il a gagné une Coupe avec les Oilers.
Ben oui, c'est
sans
ça.
Sans Wayne Gretzky.
Où situes-tu Glenn Metropolite dans votre classement?
Sur la deuxième page.
En deuxième page.
Entre Travis Moen puis Brian Smolinski.
Ouais, ça, c'est tes hommes, ça. Hein?
Hey, ça, c'est les miens.
Hey, ça se peut
Nigel Dawes aussi.
Avoir eu une jeunesse aussi poche que ça. Sans
Dominic Moore.
Hey, je serais pas gêné, c'est pas de ta faute, mais je serais déçu d'être toi.
Il vient.
Je serais déçu d'être toi.
La phrase, c'est je serais déçu d'être toi.
Il y en a pour qui c'est Guy Lafleur, puis toi, c'est.
Mon petit cœur.
Brian Smolinski.
Non, la vérité, c'est. Moi, c'est Alex Kovalev.
C'est bon, pareil.
C'est hot,
il était spectaculaire par moment, mais. Et qu'on n'est pas dans la même trempe de joueurs, par exemple.
Mais à défaut de gagner, puis gagner un petit peu cette année-là, mais Kovalev a été quand même marquant.
La réunion de Koivu, Kovalev et Tanguay sur le même trio.
Ah,
okay.
Hey boy.
Puis avant ça, ça avait été Plekanec, Kostitin, Kovalev.
J'ai la fleur.
Moi, c'était ça, là. Tu sais, fait que ça ne tenait à pas grand-chose.
C'est ça.
Mais
ce qu'on jase, là, c'est la raison pourquoi, quand il arrive un joueur d'un certain talent, on en fait une star incroyable. Il y a un manque là, à ce niveau-là parce que l'histoire du Canadien a tellement été fantastique.
Oui.
24 Coupes Stanley quand même. Là. Et ça fait 28 ans qu'on n'a pas reproduit ça. Donc, quand il arrive un Carey Price, choisi 5e total, ben là, on a décidé que c'était lui la nouvelle la face de la franchise. Puis touchez-y pas parce qu'on en a un bon.
C'est ça. Ben, pis un peu ce qu'ils sont en train de faire avec Cole Caulfield. Là. Moi, Caulfield, je l'aime bien. J'ai hâte de voir s'il va scorer des nets, mais... Il va arriver avec 3 buildings de pression sur les épaules parce qu'il est supposé d'être le prochain Martin Saint-Louis.
Certain.
C'est pas drôle, là. T'sais, c'est plate pour le jeune homme. Moi, je trouve ça plate, comme on t'a dit.
C'est difficile.
Oui.
C'est difficile.
Oui, c'est difficile.
Tournoi Pee Wee fait un clin d'œil en fin de semaine, justement, aux joueurs Pee Wee. Malheureusement, les jeunes nés en 2008 n'ont pas pu prendre part au tournoi Pee Wee. Et samedi et dimanche, 8 équipes de la région de Québec dans des classes bulles ont pu s'amuser sur la place Jean-Béliveau. Belle petite patinoire, beau setup. C'était très bien ce qu'on a fait avec Pascal Dupuis et Maxime Talbot qui ont animé le tout. Donc, un petit baume sur, évidemment, une année à oublier encore une fois pour bien des domaines. Puis le tournoi Pee Wee, ben c'est une année à oublier. On espère qu'en 2022, on pourra reprendre presque à la normale une prochaine édition avec les Pee Wee nés en 2009, cette fois. À part de ça, je vais rapidement pour ce qui s'est passé en fin de semaine au tennis en Australie. Naomi Osaka a gagné chez les madames, Novak Djokovic chez les hommes. Pour Djokovic, 9e fois qu'il gagne en Australie. Et lui, il se rapproche de Roger Federer et Raphaël Nadal pour le nombre de victoires en tournoi majeur. Ça, c'est une statistique importante dans des sports comme le tennis et le golf. Gagner des tournois majeurs, on vient de parler de gagner, mais gagner des tournois majeurs, c'est important. C'est une bonne note dans ton CV. Et Novak Djokovic a maintenant 18 victoires en tournoi majeur, c'est-à-dire Australie, Wimbledon, les internationaux de France et le US Open, gagné ces quatre tournois-là. Puis, au tennis masculin, on vit une époque extraordinaire où trois joueurs essentiellement ont dominé depuis 15, presque 20 ans. Djokovic, 18 victoires en tournoi majeur. Nadal et Federer en ont 20. Nadal et Federer, faut être honnête, ça tire à sa fin. Djokovic est encore capable, je pense, de tenir son bout et il y a un potentiel de gagner des tournois majeurs encore. Federer se remet de deux opérations au genou. C'est sûr qu'à Wimbledon, Federer est roi et maître, donc s'il revient à Wimbledon, il va être quand même parmi les favoris. Raphaël Nadal sur terre battue est presque imbattable, donc ça leur donne un petit avantage. Mais Djokovic, il y a des chances qu'ils rattrapent les deux autres quand même.
As-tu déjà pensé à ce serait quoi le tennis si il y avait juste un des trois qui existait? Mettons juste Federer ou
je sais pas s'il serait. Tu sais, mettons, ta question est bonne. Est-ce que, mettons, Federer aurait gagné 35 tournois majeurs s'il n'y avait pas eu les deux autres?
Ou est-ce que les deux autres l'ont aidé aussi à performer?
C'est ça mon point. C'est ça mon point.
Ah,
parce
que
les deux, ils se sont tirés l'un l'autre puis ils ont gardé un standard. Pour moi, c'est sûr que les trois se sont aidés dans le... Djokovic, il est arrivé un petit peu après.
Ouais, je comprends.
Ils se sont aidés, c'est sûr. Parce qu'il y en a qui ont dominé le sport. Mais il vient à un moment donné, peut-être tu t'ennuies ou tu n'as pas assez de compétition, puis
non, mais t'apprends
tu te fais rattraper.
Dans le sport, tu apprends des autres.
Tu deviens meilleur avec la compétition.
Oui, puis tu sais, un sport d'équipe aussi, tu apprends de tes coéquipiers, puis les vétérans enseignent aussi aux plus jeunes ces choses-là, mais si ton équipe est poche, puis il n'y a personne de qui apprendre, c'est le même principe que si t'es le meilleur de ton sport individuel, il n'y a personne là, qui t'accote, là. Tu peux pas apprendre vraiment d'eux autres tant que ça, ou t'apprends un peu, mais moins.
Ouais.
Mais quand il y en a un qui te plante, là,
hein,
tu fais comment il a fait pour me planter, lui, puis tu t'améliores.
Les trois se sont tirés.
Ah ouais, j'achète ça, c'est théorique.
Le meilleur exemple, c'est quand tu fais une course, un marathon, là, ou quand tu fais une course, et souvent tu te relayes. Parce que si tu es toujours en avant, tu tiendras pas le coup. Et souvent, quand tu as un peloton, genre, exemple, au Tour de France, quand ils partent à 5, 6, 7, ils se relayent en avant, ils se relayent, puis ça va bien mieux à gang.
Oui.
On se rend jusqu'au bout. Alors que si t'es tout seul en avant, tu vas te faire attraper.
Oui. Puis tu pognes un vent de côté. Oups, pas là, c'est pas de même.
En série NASCAR, pour les Québécois Raphaël Lessard et Alex Labbé, ça a été des courses difficiles impliquées dans des accidents. Et pour Raphaël Lessard, entre autres, deux crevaisons sur le dernier tour. Ça allait pourtant bien pour Lessard qui allait récolter un top 10 dans la deuxième course de la saison. Dans la NBA, les Raptors ont gagné hier. Les Raptors se sont replacés. Ils ont maintenant une fiche supérieure à 500. 16 victoires et 15 défaites. Et je veux terminer avec deux choses. D'abord, il y a un ancien joueur du baseball majeur, Johnny Damon, en fin de semaine, qui s'est fait arrêter en état d'ébriété à .20, grand chef. Alors, je sais pas ce que vous pensez, monsieur l'agent, mais c'est pas mal ça. À 47 ans, Johnny Damon fait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies dans l'État de la Floride.
J'ai réalisé, je me permets une petite parenthèse là-dessus, là, l'alcool au volant.
Oui.
J'ai réalisé récemment à quel point, la dernière fois, mauvaise formulation de phrase.
Oui, ça laisse une équivoque, là.
Ouais, j'ai réalisé récemment, il y a quelques
la
mois.
La dernière
là,
fois, je me suis fait arrêter. Et
à quel point, pour conduire, dépasser 0.08, faut être chaud en tabarslack. Parce que, tu sais, c'est un taux d'alcool dans le sang. Fait que, bon, bien sûr, moi, vous allez dire, t'as beaucoup de sang. T'as beaucoup d'espace pour avoir du sang dans ton corps, vu que t'as un gros corps. Peut-être. Mais, tu sais, en général, on a du sang, plus ou moins d'alcool. Fait que même si tu dis, moi, je tolère la boisson, je suis pas chaud, t'as quand même une certaine quantité d'alcool dans le sang. Puis moi, j'ai essayé trois affaires à travers ma longue expérience de brosse. Une fois, un souffleux dans un bar.
OK.
Puis quand même pas mal chaud. Puis là, je pense que je suis à point 1, là. Fait que, tu sais, c'est dépassé, mais c'était à l'époque du cégep, ça fait super longtemps, puis tu sais, on s'était décaloté.
Tu sentais chaud d'ail, pareil.
Ouais, plus que chaud d'ail, là, tu sais. Ensuite, il y a une fois, c'est dans un party de famille du bar à ma blonde, où est-ce qu'on a fait un souper bière et saucisse, puis dégustation de bière, mais tu sais, dégustation avec beaucoup de bière, là. Puis on avait soufflé d'une machine achetée qui était supposée être bien bonne, mais on sait jamais trop. Puis j'aurais pas conduit, puis j'étais en dessous de 0.08.
Fait qu'à date, j'aurais pas conduit.
Ça t'a surpris un peu.
Puis j'ai essayé le calculateur récemment. Ben récemment, cet été.
C'est quoi,
là. Ça, c'est l'outil de calcul d'Éduc'alcool.
La roulette, là?
Fait que là, tu te dis, ça doit pas être trop pire, mais là, les autres, c'est pas un clic, c'est plus une espèce de diagramme. Là. Tu te dis, ben voici, j'ai bu tant, j'ai tel poids, j'ai bu ça en temps d'heure, mettons du vin ou du fort, ouais. Ou de la bière à 6%, 7%, 4%. Là, ils te disent, t'es à peu près à combien? Hey, on avait bu à une journée où est-ce que tu. Mais pas nécessairement chaud, mais que tu boutes la journée. Hein, rendu à la fin de la journée, tu dis.
Tu peux être de travail.
C'est le soleil qui tape. Mmh. Bon, ça, là. Puis barbecue, souper. Puis on avait quand même, je l'admets, on avait pris un coup. Puis le soir, je check ça le calculateur avant de me coucher. Jamais de la vie que j'aurais conduit, là. Tu sais, zéro open bar, il n'y en a pas question. Je pense que le calculateur, il me disait 0.02. Hey, c'est Éduc'alcool! Il me semble qu'il devrait me dire « Alerte, monsieur, alerte, c'est 3 par jour, vous n'avez pris 12. Hey, wow,
ah
wow,
oui,
wow.
C'est vrai, tu contreviens aux recommandations.
Ben moi, je me disais, si leur recommandation, c'est 3 par jour, là, mm-hmm. On ne boit pas tous les jours. Ben, tu sais, forcément, si je n'ai pris plusieurs, puis toute la journée, moi, rendu le soir, puis que je suis chaud, je vois pas, tu sais, c'est sûr que mm-hmm. Ça se peut pas. 0.02, selon mm-hmm. Les autres.
Michel Barrette, dans son spectacle, 20 ans déjà, parlait de quand il était jeune, puis qu'il faisait la tournée des bars au lac, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, la Société d'assurance automobile du Québec ou Éduc'alcool, puis tout ça, est arrivé avec, justement, là, l'espèce de calculateur, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, fait que c'est une roulette. C'était des cartons superposés, puis tu roulais. Là, je mesure de temps, je pèse combien, j'ai plus de temps d'alcool, dans combien de temps je peux prendre mon char. Il dit, ce soir-là, là, c'était tellement chaud qu'il aurait fallu que je mesure 125 pieds puis que je pèse 1255 livres, puis j'aurais été correct de prendre mon char.
Ça, c'est chaud. Ah,
c'est bon, ça. Fait, je m'excuse,
il n'y a pas de
pendant un sport, mais correct. Ça me faisait penser à ça. C'est la morale,
c'est pour ça
histoire.
Le point 20. Là, c'est...
Faut être chaud ouais. En sacrifice ou avoir un petit corps avec pas beaucoup de sang.
Ouais. Johnny Damon, c'est quoi, ça a-tu mal viré à la suite de sa carrière? Parce que, tu sais, on l'a...
Pas, il était avec sa femme aussi était...
Était rondelette.
Était avancée. En état de l'ébriété, là.
Ah oui, elle connaissait.
Ouais, eux disaient qu'il était dans l'état de la Floride, mais il était plus dans l'état de l'ébriété, je reviens.
Elle était bonne, ça, là.
Et Tiger Woods n'a pas été rassurant en fin de semaine. Il a donné une entrevue au réseau CBS. Tiger se remet d'une 5e opération à un dos.
Oh.
Puis on pensait pas que c'était aussi sérieux que ça, mais Tiger a dit pour l'instant, je prends mon putter. Des fois, un petit wedge, là, mais c'est tout ce que je peux faire comme élan de pratique parce qu'on est à 7 semaines. Dans 7 semaines, c'est le tournoi des maîtres. Donc, on lui a posé la question, est-ce que tu y seras au tournoi des maîtres? Et il a dit, gardez, c'est ça qu'il a répondu. Là. Il dit, pour l'instant, je fais des potes puis j'essaye de me réhabiliter. Donc, et beaucoup d'incertitudes autour de Tiger, malheureusement.
OK, 7h06, bougez pas trop.
Je veux juste ajouter, sur Twitch, on nous mentionne que François Lavoie de Québec, il aurait terminé 3e au championnat des joueurs de la PBA, la
absolument.
Professional Bowlers Association, pour une bourse de 80 000 $. Tu connais pas?
Non.
Un gars de la Rive-Sud, en plus.
Ah! Hein?
Ton hood.
C'est ça. Il a gagné le US Open il y a de ça quelques années.
Ouais.
Il est très bon. Il est établi aux États. Pour jouer.
Comment t'as dit son nom déjà?
François Lavoie.
François Lavoie. Ben, félicitations, M. François.
Bien sûr, bien sûr.
Super hot, ça. Fait bravo. World, t'as dit Federal Bureau.
La Professional Bowling Association.
PBA.
C'est comme le King.
C'est les meilleurs qu'hier, oui.
Ça joue-tu au King pas mal dans tous les pays? Ou, parce que je me suis dit avec
les pays, je sais pas.
Sur le Boulingrin en fin de semaine, puis on s'est rendu compte que ça se jouait
mais
vraiment beaucoup au
Canada. Moi, ce que je me souviens, ESPN, qui est un réseau de sport aux États-Unis,
oui.
Un des premiers sports qu'ils ont présenté, c'était les quilles. À la TV.
Ben, okay. Le roi de la quille avec Woody Harrelson. Ouais, il me semble que c'est ça. Puis, en tout cas, c'est un film incroyable. Le milieu des années 90, une comédie spectaculaire avec Bill Murray aussi. Puis, tu connais pas ça?
Non, moi, culture quille est assez déficiente.
Hey,
ma seule culture quille, là, c'était les games de quille qui étaient diffusés à la TV.
Avec Stéphane
Leroux. En direct du Kiorama Frontenac. Ah. Moi, j'étais allé à l'école avec un gars qui s'appelait Francis Ciccone.
Puis,
Francis, il jouait aux quilles. Depuis jeune, puis tu sais, il avait été initié. Même, je me demande s'il n'avait pas fait sport-études quille, une affaire de même.
Mais à Lévis, il y a un sport-études quille.
Ouais. C'est ça, il me semble, lui, Sauf erreur, je pense qu'il avait peut-être fait ça, mais peut-être je me trompe. Puis lui, il passait à TV, Francis Ciccone. Il passait à TV, puis il quille, puis tout ça. Mais je sais pas ce qu'il est devenu. Là,
le
mais...
roi de la quille, c'est vraiment très drôle. C'est une comédie, là, une excellente comédie avec Bill Murray. Il y a de la satire, il y a de l'humour noir là-dedans. Il se parachait une main dans le bowler, là, mettons. Là. Je te donnais une idée.
Dis-moi le nom du...
le roi de la quille.
Le roi de la quille. Mesdames, messieurs, c'est les sports et c'est aussi des suggestions télé, suggestions cinéma. Si ça, c'est pas de l'émission de radio et du contenu.
On est de service.
Oui ou non? 7h08, on revient.